Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary. Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quand Poséidon et Athéna, filles de Zeus, se disputèrent un jour à Tyque, la mythologie raconte que Poséidon fit jaillir de l'eau salée en frappant un rocher de son trident, alors qu'Athéna, elle, planta un olivier en guise de paix. Cette histoire d'eau salée et d'olivier, de déesses et de dieux issus des temps anciens, de lutte aussi pour la protection de la cité, marque ainsi le début de la fondation d'Athènes, qu'on appelle la mère des démocraties modernes. Démocratie, soit le pouvoir au peuple. Et à sa manière, des millénaires et quelques civilisations plus tard, cette histoire fait écho à la tragédie, plus tout à fait grecque, que vivent aujourd'hui au XXIe siècle les habitants du Salento. Une langue de terre majestueuse, traversée d'influences, située dans le talon de la botte de l'Italie à l'extrême sud, entre Adriatique et mer Ionienne, entre maquis et falaises, entre Orient et Occident, entre terre ocre et bleu lagon. Cette tragédie porte ici le nom barbare de Xylella fastidiosa. Une bactérie qui, en 10 ans, a ravagé des millions d'oliviers centenaires qui façonnaient le paysage, mais aussi la culture de ce Finistère italien comme ailleurs dans la Méditerranée. On parlait alors de civilisation de l'olivier. Aujourd'hui, cette civilisation-là, cette monoculture en tout cas, est pour ainsi dire arrivée à son terme dans le Salento. Mais une partie de son peuple a décidé de tirer les leçons de son histoire et d'en écrire la suite, en réinventant le lien profond qu'il attache à ces terres de plus en plus désertiques. À l'écoute de la nature et sur un air de tarentelle, cette danse typique des Pouilles qui visait au départ à guérir des morsures et celles du passé sont parfois tenaces. Salento, le Finistère des possibles, c'est un voyage sonore de Viola Berlanda.
Buongiorno. Viola, piacere.
Ben trovata, piacere.
Ben mio, trovato. Allora. E presento anche Luigi.
Ciao. Emanuele. Cioè, andiamo?
Andiamo.
Andiamo?
Andiamo? Sì, così sì. Ciao Marghe. Vediamo dopo.
Possiamo cominciare già da subito a parlare francese?
Sì.
Bonjour, monsieur.
Bonjour à vous. Bienvenue à Castro.
Merci beaucoup. Et donc, vous êtes ?
Je m'appelle Emanuele. Je suis un archéologue, mais je suis aussi un guide touristique au musée archéologique de Castro, qui est logé dans le château de Castro.
Nous nous trouvons dans le château. Tout autour de nous, il y a des arcades. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 arcades de pierre assez grandes. Les murs, ils sont très épais. Ils doivent faire 1,5 mètre, 2 mètres l'épaisseur des murs.
Ils doivent être capables de résister à la puissance des armes à feu, des canons, de toutes ces armes qui ont été utilisées tout autour de la côte du Salento pour les nombreuses activités militaires. Nous trouvons cette petite tour à côté de la mer. Elle avait cette fonction de voir, comme on dit, de contrôler la mer. De Turcs, mais aussi d'un autre problème qui était très sérieux à cette époque-là, les pirates.
Il comune di Castro ha condotto scavi che hanno rivelato uno dei contesti archeologici più ricchi dell'antica Messapia. Gli archeologi hanno portato alla luce un sistema di fortificazioni databili alla prima metà del secondo secolo a.C.
Et donc ici, on continue à voir tous les restes qui ont été trouvés dans la zone des fouilles.
Je vois qu'il y a une dame habillée en blanc. Moi, je peux voir que les pieds et la taille, mais elle est très grande. C'est qui cette dame ?
Ça, c'est la statue qui se trouvait dans le temple d'Athéna, puisque Castro est connu pour la découverte qui est récente. d'Athéna. Athéna, c'est une divinité guerrière. Et la statue rejoint une hauteur de 1,80 m. Sans la tête, puisqu'on doit encore trouver la tête.
Vous n'avez pas retrouvé sa tête?
Pas encore.
Est-ce que tu étais là au moment de la découverte? Parce que j'imagine que ça a été un moment de grande émotion pour vous tous.
Exactement.
Tu peux me raconter?
C'est l'émotion d'entendre l'histoire qui revit dans ses mains. J'étais le premier qui a vu apparaître dans la terre la base de la statue.
Emmanuel, je voudrais bien interviewer cette statue, mais malheureusement, elle ne va pas me parler. Est-ce que vous pourriez m'aider et juste répondre à deux questions, comme si vous étiez la déesse Minerva? Donc, bonjour madame.
Bonjour à vous et bienvenue dans la vie qui est consacrée à moi, puisqu'il s'appelait Athénaïon. Je suis la déesse de la Métis, ça veut dire de la sagesse de celui qui allait traverser les mers pour ses activités de commerce, les marins, les marchands. Et mon temple qui se trouvait sur une colline mais très proche à la mer était comme un phare pour les navigants.
Et si je peux me permettre, quel âge avez-vous, madame?
J'ai 2340 ans.
Je vois que vous avez perdu votre tête. Elle est où, votre tête?
Probablement, il s'agit seulement d'une question de temps. Les archéologues qui m'ont réveillé de mon sommeil après 2200 ans, ils vont trouver sûrement la tête.
Photo. Là, on est au milieu de la campagne. Devant nous, il y a un grand champ d'oliviers. Mais ils sont tous morts.
Non. Ça, c'est une, je pense, on considère déjà la mort quand ils ne sont pas productifs. Mais comme on voit, il y a toujours des poussées à côté, qui sont vivants. On les a condamnés déjà, les oliviers, mais c'est vrai que les racines sont vivantes. La xylella, en effet, c'est une maladie lymphatique de la plante. Ça signifie que la sève n'arrive pas à les branches. Il est fermé, les canaux de la vie dans la plante.
Luigi Coppola, artiste, activiste et agroécologiste italien.
Avant, pendant les années 60, 70, 80, les personnes ils ont trouvé une méthode très facile pour cultiver les oliviers, c'est-à-dire donner 2-3 fois par an des herbicides, des Roundup, des glyphosates très puissants qui tuent la vie. Et on a appris à utiliser les kits du parfait petit chimiste. L'arbre d'olivier, il était très résistant à ça. Et il prospérait même s'il y avait cette action très puissante. On travaillait la terre, mais on n'avait pas une relation vraie avec la terre, c'est ça. Je suis né ici, à Diso, où on se trouve maintenant, il y a 50 ans. Quand j'étais petit, dans la maison où on se trouve maintenant, on cultivait le tabac. C'était la monoculture du moment. C'était une monoculture très toxique,
malheureusement, est très liée à la culture du sacrifice et de la souffrance. Si on pense aux femmes ici en Salento, il était l'esclave de la société. L'Église contrôlait un peu notre rituel quotidien et notre vie. J'étais un peu nausée de la culture patriarcale et familiale qu'il y avait ici et je suis échappée. Je suis revenue en Salento et c'est le lieu principal pour moi d'expérimentation. On a la possibilité d'éduquer les personnes à une relation plus fiable avec la nature. Et c'est ça un peu le centre de mon travail, changer les dynamiques relationnelles entre culture et nature, s'approcher beaucoup plus à l'effet que nous sommes partie de la nature et on doit agir en accord et pas avec l'unique critère de production et domination qui a bouleversé les derniers siècles et qui a causé tous les mals que maintenant on est en train de vivre. On parle de 30 millions d'arbres qui sont en train de mourir. Les codiro s'appellent comme ça les complexes de dissection rapide causés par les bactéries de la xylella fastidiosa et a commencé à se propager pour toucher des millions d'oliviers. Et il semble que rien ne puisse l'arrêter. On parle de 150 000 hectares de terre. Les paysages étaient façonnés par une monoculture d'oliviers. Aujourd'hui, quand on regarde, il ne reste que les fantômes. Nous sommes ici, sur le talon de la botte. Mais maintenant, le talon est le talon d'Achille aussi. Je pense qu'ici, avec le modernisme, comme Athènes, Minerva, à Castro, on a perdu la tête. On a perdu la tête, mais on n'était pas capable vraiment de penser qui on devait laisser une trace durable pour les générations futures. On a pensé vraiment seulement à exploiter le plus possible. Mais comme a dit l'archéologue de Castro, je pense qu'on peut retrouver la tête. Mais on doit la chercher ensemble. On a besoin de faire en commun. C'est seulement comme ça qu'on peut retrouver notre tête et reconstruire notre identité. Peut-être d'une manière différente et plus durable, je pense.
Regarde celui-là. C'est un monument de notre époque, hein? C'est un monument incroyable. Il y a les ranches qui ont pris une grande place, c'est presque en forêt de ranches. Et le vieux arbre qui est presque étouffé par la végétation sauvage.
On est face à des arbres d'une grande, grande hauteur, hein? Parce qu'ici ça doit être 15-20 mètres.
Ouais.
Au moins avec le feuillage, quand il y avait le feuillage, quand il y avait la vie, ça devait être des bêtes colossales.
Ouais.
On va voir celui-là, il a été brûlé, on dirait, on se rapproche.
Ouais. C'est un énorme tronc brûlé. Il y a encore une partie qui s'élève. On dirait qu'il nous demande de l'aide. Il y a eu vraiment un effort pour le tuer. Parce que l'arbre résiste, mais ici, vraiment, ils ont mis le feu. Tu vois vraiment la destruction. Et si on regarde là? Regarde, même là, il y a toujours des poussées. Il y a toujours des...
De la vie.
Il y a toujours de la vie, même là. Et peut-être que c'est, si on les regarde en termes d'écosystème, probablement, c'est plus sain qu'avant. Ça, c'est la contradiction.
Si tratta di una catastrophe vera et propria, diciamo, sia dal punto di vista agricolo.
Il s'agit d'une véritable catastrophe agricole, botanique et paysagère qui frappe le territoire du Salento depuis plus de 10 ans.
Francesco Minone, biologiste italien engagé dans la défense de la biodiversité du Salento.
Delle piante d'olivo, anche di quelle più secolari che finora avevano affrontato.
On a des oliviers centenaires qui, jusque-là, avaient résisté à des conditions climatiques difficiles ou à des parasites et qui, aujourd'hui, sont touchés par un phénomène de dessèchement spontané provoqué par cette bactérie qui s'appelle Xylella fastidiosa. À ce jour, on n'a pas réussi à contrer de façon radicale cette bactérie. Donc il a fallu arracher ou brûler ces arbres pour tenter de contenir l'épidémie.
J'ai entendu parler de cet événement que vous appelez catastrophe, aussi en termes d'occasion. Qu'est-ce que vous en pensez ?
L'occasione non nega la catastrofe che c'è stata.
Parler d'une occasion, ce n'est pas nier la catastrophe à laquelle on assiste. De toute façon, on ne peut pas se résigner à l'uniformité et à la monoculture. Ici, on a l'occasion non seulement de diversifier les cultures, mais aussi de revenir à la naturalité qui, depuis des décennies, a été reléguée et marginalisée dans le Salento.
Per naturalità noi intendiamo i boschi. Les macchies, les garrigues.
Par naturalité, il faut entendre les bosquets, les maquis, les garrigues, toutes ces formations naturelles et semi-naturelles. Il n'y a rien de mieux que le sauvage pour garantir la survie des écosystèmes. Avec ce parasite, on voit bien qu'il y a à l'intérieur même de l'olivier quelque chose qui se referme, se dessèche et se réduit. Mais de l'autre côté, quelque chose de nouveau surgit. Finalement, on peut voir dans tout cela l'emblème des cycles de la transformation. Et ce qui est vraiment immortel, c'est la transformation.
Muretto a secco.
Mur en pierre sèche.
Mareggiata.
Tempête.
Torri costiere.
Tour côtière.
Paparina.
Paparine.
Gli alberi di fico.
Les figuiers.
Gli olivi.
Les oliviers.
L'acqua calda delle spiagge del Salento e l'acqua fredda.
L'eau chaude des plages du Salento e l'eau froide des sources qui coulent entre les rochers.
Accanto alle rocce.
Donc ici, on est à Dizo, ta ville natale.
Oui, on est à Marittima, qui est l'attraction de Dizo. Et c'est le village qui va vers la mer.
C'est un tout petit village ou c'est un...
Oui, c'est un petit village, oui. Mais ici, les villages sont très liés. Il y en a beaucoup. Mais chaque village, c'est un kilomètre, tu trouves un autre village, c'est comme ça. Il y a toujours un palais. Qui c'est les symboles du pouvoir local. Des masques sur les façades, des décors incroyables, un château. Et tu es dans un petit village nulle part dans le monde, dans les talons de la botte, non? Jusqu'au fascisme et la redistribution des terres qui est venue après, il y avait très peu de propriétaires terriers et beaucoup de personnes qui travaillaient pour eux. Et alors qu'il y avait une énorme richesse qui était accumulée à très peu de personnes qui profitaient.
On va voir qu'est-ce qu'il y a écrit là sur le portail. Palazzo Vecchio. Bed and breakfast.
Oui, oui, oui. Maintenant tout devient touristique. Ça c'est la nouvelle vague du Salento parce que tous les lieux qu'ils ont peut-être peuvent être exploités, ils vont être exploités. Il y a beaucoup de personnes qui viennent ou du nord de l'Italie ou d'ailleurs. Et ici, dans les villages, il y avait les maires de Londres, il y avait Sting, il y avait tous les VIP qui venaient ici.
Et pourquoi les gens, ils viennent ici au fond du talon de la botte? Qu'est-ce qu'ils cherchent?
Le fait que c'est vivre comme dans une île ici. C'est être loin de tout. Pour les personnes, je pense... qui vient d'ailleurs, c'est très suggestif.
On va se prendre un café?
Oui.
Et ici, il y a des gens qui jouent aux cartes, c'est normal?
Oui, c'est normal. Ça, c'est l'activité pour sociale pour excellence. Il y a les petits bars, il y a toujours... des hommes, les femmes sont exclues complètement. Et il y a même des personnes qui regardent pour des heures comme il y avait la télé.
Se non te scerri mai delle radici cadieni, rispetti puro guide dei paesi lontani. Se non te scerri mai de due de castaieni, dai più valore alla cultura cadieni. Siamo salentini dell'umono cittadini, radicati agli messapi, gulli greci e bizantini, uniti in giusto stile o c'è gulli giamaicani. Dimmi di te due.
La canzone racconta di quanto sia importante riconoscere le proprie radici.
Cette chanson raconte l'importance de connaître ses propres racines et son territoire d'origine, afin de pouvoir apprécier les racines des autres.
Di quante influenze.
Elle nous parle des multiples influences présentes dans le Salento, celles des Messapiens, des Byzantins, des Grecs. Évidemment, toutes ces influences sont la richesse de ce territoire, une richesse culturelle, linguistique et artistique.
Sono Alessia Tondo, ho 31 anni.
Je m'appelle Alessia Tondo, j'ai 31 ans. Je suis née, j'ai grandi dans un petit village du Salento.
Ad Arnesano.
Je vis à Arnesano.
Tendenzialmente mi occupo di.
Je suis chanteuse et autrice et je fais de la musique populaire du Salento.
Scrivo canzoni.
J'écris des chansons dans ma langue maternelle, qui est le dialecte salentino.
Ho iniziato a cantare ufficialmente all'età di 6 anni con un gruppo di musica popolare.
Moi, j'ai commencé à chanter officiellement à l'âge de 6 ans. Avec des groupes de musique populaire composés essentiellement par des membres de ma famille, mes oncles, mes cousins, ma grand-mère qui chantait et qui jouait du tambourin. Donc pour moi, aller vers la musique populaire, c'était naturel. C'était ma tradition. Et c'est encore ma tradition. Je dis toujours que c'est le chemin qui m'a choisi. Et c'est une grande chance. Nous sommes à la toute fin d'une terre qui est le talon, la pointe de ce talon de la botte. Et je trouve ça très beau que ce soit la culture, la tradition et la musique qui ont permis de mettre un coup de projecteur sur ces confins et sur cette terre.
Et un linguaggio crudo che parla di terra.
C'est un langage brut qui parle de la terre, qui vient de la terre et qui conserve les ferments de la guérison. J'en ai fait l'expérience dans ma propre famille, plus jeune. Et je perçois encore aujourd'hui le pouvoir très fort de ce rythme.
E non solo quello legato alla pizzica, quella che ora viene chiamata Taranta.
Que ce soit pour la pizzica qu'on appelle Taranta,
tutto quello che è il repertorio della musica,
mais aussi dans tout le répertoire de la musique populaire du Salento. Ces chants de lutte, de travail, de dénonciation sociale ou d'amour.
Una ricchezza vocale.
C'est une richesse vocale liée à la Méditerranée.
Et
je vois dans cette Méditerranée mon berceau, ma maison, l'endroit où je peux récupérer mon identité.
Le territoire dans lequel tu habites, Alessia, en ce moment, il vit un moment charnière.
Il y a un grand changement. Toute la monoculture des arbres d'oliviers est en train de disparaître. La plupart des gens qui habitent ici se retrouvent devant des grands défis. Et j'aimerais bien savoir comment c'est ta vision des choses du présent et du futur.
Il cambiamento che abbiamo vissuto qui nel Salento è stato un cambiamento traumatico.
Le changement qu'on a vécu ici a été traumatisant.
Per me era sempre meraviglioso vedere questi muretti a secco, gli ulivi.
Je me souviens, quand je rentrais chez moi, j'adorais voir les murs en pierre sèche, les oliviers en fleurs. C'était merveilleux, surtout au printemps.
Erano in questa cornice di ulivi secchi.
Mais les oliviers se sont desséchés et chaque fois que je revenais, je pleurais parce que je voyais mon enfance et mon histoire disparaître avec les oliviers.
Ora invece sono consapevole che noi siamo una terra che ha vissuto grandi invasioni.
Mais maintenant, je suis bien plus consciente de ce qui nous arrive. Nous sommes une terre de grandes invasions. Nous sommes les enfants de ces invasions. Elles sont notre culture. Notre langage a des racines grecques, latines, arabes.
Et quindi penso che questa invasione probabilmente bisogna accoglierla.
Donc je pense qu'il faut probablement accueillir cette invasion et comprendre que ce moment charnière est une belle opportunité.
Questa malattia,
j'ai confiance. Cet envahisseur, cette maladie est déjà en train d'être guérie. Il y a des territoires qui renaissent. La guérison est en cours.
Che sia un grande momento di guarigione.
E la lettera che mi desti la giù fatta pezzi pezzi e ha giù saputo che me disprezzi e na giù amante ma giù giuva. Più bellino e più elegante e più sincero nel fare l'amore e me l'hai data una pena al lugore e finché vivo laggiù porta.
Zina! Zina!
Je suis là!
Eccoti, Zina!
Ciao!
C'est beau ici!
Ah, celui-là, c'est un des chemins du cœur hein, pour moi, ici dans le Salento.
En fait, tout autour de nous, il y a des petits murets à sec avec des pierres blanches. Et à ma droite, il y a des oliviers, à ma gauche, il y a des chênes. Et là, on aperçoit la mer de loin.
Burrascosa aujourd'hui. Hein?
La mer est
oui.
Avec des vagues. Hein? Il y a beaucoup de vent.
Et ce chemin-là, c'est comme un serpent hein, qu'il nous invite à le suivre.
Jusqu'à la mer.
Oh. Merci. Ancien muret. La raison des murets à sec, c'est pour protéger du vent. On va ici maintenant. Ça, c'est la garrigue salentine. Tu vois tous les plantes spontanées. Ça, c'est la carotte sauvage, hein, la carota selvatica, hein, les fleurs. Ici, il y a les orchidées. Maintenant, n'est plus le période. On peut voir que ce terrain a été abandonné. Et moi, je suis très, très, très content parce qu'il y a quelque chose. La nature a pris tout ça à liberté. Hein, et on est en train de se promener entre les plantes du printemps, qu'elles sont hautes comme nous. Hein, c'est vraiment c'est presque comme si on nage, hein, ou en train de nager dans une mer de fleurs, hein, de fleurs spontanées. Ouais.
Là, en fait, on est tout à haut d'une falaise.
Tu vois le paysage là ?
C'est
incroyable.
Beau.
On voit les montagnes de l'Albanie. Elles sont justement là.
C'est magnifique. Et là, on aperçoit un petit village.
Oui, c'est Castro.
C'est Castro.
Là, c'est Castro où il y a la Grande Athéna. Hein?
Était
trouvé là.
Donc sur notre gauche, on voit de loin le village de Castro. Et tout devant nous, il y a la mer. Rapprochons-nous à la mer.
Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
Je m'appelle Zina Daniele. Je suis instructrice de yoga depuis longtemps et aussi je suis une thérapeute du corps. Je suis née au nord d'Italie, au Piémonte, il y a 60 ans. Et après un long voyage dans plusieurs lieux du planète, je suis arrivée ici. Au Salento, et je suis encore là après 22 ans. Je me rappelle de la beauté qu'était le Salento quand je suis arrivée. Millions et millions de oliviers, heureuses, généreuses, et ils étaient habités à la fin de l'automne et l'hiver. Il y avait les personnes qui allaient recueillir les olives. C'était toute une économie, une façon de vivre. Et tout ça, c'est incroyable. Maintenant, comment le paysage a changé? Les arbres sont malades, ils sont nus, pas de feuilles sur les branches. Et ils sont vraiment comme des fantômes, surtout la nuit. Tu vois les lignes avec des formes incroyables. Et c'est presque un peu effrayant. J'ai eu des moments que je pensais, oh, je vais partir, je ne peux pas rester ici. Et sûrement, c'est la richesse du facteur humain. J'ai rencontré des très belles personnes. Les personnes que j'ai connues sont des très bonnes amies, avec lesquelles, il y a 3 ans, on a fondé une association pour le soin du territoire. Et on l'a appelée Mano Mano Riforesta. Et ça veut dire, très simplement, petit à petit, on va reforester. Nous sommes des volontaires. Tous les fins de semaine, on a planté des arbres. On a décidé de créer une forme d'agroforestation. Alors, ce n'est pas seulement les arbres, les chênes verts, mais aussi des arbres de fruits, certains légumes, une vraie agroforêt. La sensation, c'est qu'il y a quelque chose de promettant dans le fait que beaucoup de monde arrive ici. Il y a, par exemple, beaucoup de jeunes qui ils sont en train de retourner à la terre, à cultiver la terre. Et il y en a qui ont des expériences, mais beaucoup qui n'ont aucune expérience, mais ils explorent, ils ont la volonté de chercher une vie différente pour ne pas violer constamment la nature. Et ça, pour moi, c'est comme de la lumière, qui, comme une petite flamme qui brûle et qui est là et qui a besoin d'attention et d'espace. C'est là où je sens qu'ici, il y a une énergie belle que j'aime continuer à la nourrir.
Cette énergie, cet élan dont vient de parler Zina,
s'incarne dans le Salento à travers une myriade d'associations et de projets communautaires où l'on paille la terre en dansant au son du tambourin et où l'on débat des doléances paysannes à l'occasion de parlements ruraux assis sur des meules de foin. Cette démocratie populaire, verte et engagée commence à essaimer dans ce coin des Pouilles très prisé des touristes et des promoteurs d'illusions. Car derrière la carte postale estivale et des paysages à couper le souffle, le Salento souffre comme ailleurs dans le sud de l'Italie d'une population vieillissante et d'un exode rural considérable. En 20 ans, le sud de l'Italie a perdu plus de 2 millions d'habitants. Alors, pour lutter contre ce phénomène et promouvoir une agriculture biologique locale, un moulin d'un nouveau genre a vu le jour à Castiglione d'Otranto, le premier moulin communautaire des Pouilles, mais aussi, dit-on, d'Italie. Créé sous l'égide de la coopérative de la Casa des Agricultures, ce moulin est un phare dans la nuit de l'olivier. Car ici, ce ne sont pas des olives que l'on presse, mais des céréales anciennes locales. Luigi Coppola a cofondé ce moulin.
Ça, c'est l'entrée pour les clients du moulin. Le moulin, c'est l'unique chose qu'on a comme coopérative, parce qu'on n'a pas de terrain. Les terrains sont tous des terrains abandonnés que les personnes nous donnent pour 5 ans, 10 ans ou 2, 3 ans qu'on cultive. Et on a commencé à cultiver quand on a expérimenté. On est parti avec les céréales parce que c'est la base, c'est la pâte, les biscuits, c'est le produit de base dans tout le monde, pas seulement ici. Alors quand on a pensé vraiment à cette infrastructure, c'était vraiment pensé comme un bien commun, comme vraiment un moteur de régénération du territoire pour penser que c'est possible.
Généralement, quand on parle de rural, on pense toujours à récupérer les traditions, récupérer ce qui est vieux, ce qui est ancien. Je pense que vraiment, c'est le moment de réinventer. C'est important de construire la narration nécessaire. On peut partir de ce qui est mineur pour construire le futur. C'est-à-dire ce qui est oublié, ce qui n'est pas vraiment dans les grandes narrations contemporaines pour reconstruire les choses. J'ai rencontré les amis du collectif de Casa dell'Agricoltura et j'ai décidé de travailler avec pour expérimenter mon rôle dans la société. On n'avait pas d'argent, on ne l'a pas maintenant, on est une dizaine de personnes qui s'engagent tous les jours. Mais après, pour notre activité, il y a les anciens du village qui viennent nous aider à cuisiner, à donner leur savoir, à changer leur savoir. Il y a les adolescents, il y a les migrants, il y a aussi les personnes avec disabilités qui habitent à Castiglione. On a pensé vraiment de reconstruire la communauté à partir de ce qui était généralement aux marges de la société.
Mais tu as parlé souvent de ce « casa delle agricolture » qui en fait, traduit en français, ça serait « maison des agricultures ». Mais je n'ai pas très bien compris de quoi s'agit-il.
On parle d'agricoltura pour dire l'agriculture et on parle de cultura, pour dire la culture. Alors, c'est unifier les deux mots, culture et agriculture, et imaginer de la pratiquer tous les jours, avec l'ambition de rester dans le lieu et de reconstruire les conditions. Alors, ce n'est pas seulement un projet économique, même si avec le temps, on a construit une coopérative, mais c'est un projet culturel, artistique et social en même temps. Et ce moulin, pour moi, c'est le symbole de notre restanza. Restanza, c'est l'idée qu'on essaye de rester dans des lieux comme celui-ci, mais on doit l'imaginer avec l'idée qu'on réinvente les liens de communauté, l'économie, les relations entre les personnes et l'environnement qu'on habite.
Et pour ça, on a inventé les slogans qui sèment utopie, récoltent réalité.
Ces mythes qu'il y en a à nous du sud, de cette sorte d'ascension où il faut aller vers le nord, où il faut partir. Il faut partir parce que voilà, il faut aller connaître, il faut aller étudier ailleurs, parce que les universités, au moins c'était comme ça il y a 20 ans. C'est pas partir juste pour le voyage, c'est partir parce qu'au nord c'est mieux. Et je pense que ces histoires de vie de qui a décidé soit de rester, soit de revenir, et récolter des graines, les remettre sous la terre avec l'espoir. Et avec pas que l'espoir en fait, parce que l'espoir on dit il y aura de la pluie. Non, avec du travail. En ressentant la fatigue de la terre aussi. Ça laisse cette brèche ouverte en fait, du possible, du demain.
Je m'appelle Claudia Mollese, j'ai 39 ans et je suis née à Lecce dans les Pouilles. Je suis cinéaste. Et effectivement, il a fallu aller ailleurs et revenir pour que ça soit possible. Je faisais des études à Paris, mais toutes les fois que j'imaginais un film, en fait, c'était lié ici. Et là, j'ai ressenti ces liens qui étaient, voilà, qui commençaient à être forts et commençaient à se manifester. Et ce désir petit à petit de retour qui s'est fait sur plusieurs années. Ce territoire aujourd'hui, c'est un territoire de la contemporanéité très forte, en fait, avec toutes les contradictions qu'on peut trouver. D'une terre qui, avec ce qui s'est passé avec les oliviers, avec tout ce qui s'est passé, la désertification, en fait, il y a quelque chose qui est très évident ici. Peut-être en Europe, il n'y a pas de lieu où cette désertification, c'est si évidente comme elle est là, en fait. Donc dans ça, il y a quelque chose de très contemporain de cette planète qui est polluée, qui est infectée, et où en même temps, on voit des milliers de touristes qui arrivent. On continue à parler des Pouilles comme une des régions plus belles du monde. Et en même temps, on dirait qu'il y a quelque chose d'aveuglement. Je me demande, quand les gens arrivent, est-ce qu'ils voient? Je pense que oui. Mais donc, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qui regarde les côtés sur la plage, les belles plages? Est-ce qu'on ne voit pas l'arrière-terre? Comment on ne voit pas, on ne sent pas cette souffrance? Je pense que les gens qui arrivent, ils la voient, en fait. C'est un désert, quand on arrive. C'est des kilomètres, des arbres qui sont séchés. Et sur ça, je pense que c'est une sorte de métaphore, qu'on peut voir, en fait, tout s'effondrer, et en même temps, on va continuer à consommer, à faire semblant de rien, à faire les vacances, les touristes et tout. C'est ça, en fait, quand j'ai dit que c'est contemporain, parce que j'ai l'impression qu'on a toujours pensé que c'était les capitales qui inventaient en quelque sorte le monde et tout. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu dans les territoires des périphéries que les choses s'inventent. Et ici, je pense que c'est un grand terrain d'expérimentation du possible aujourd'hui.
Siamo stati storicamente periferia dell'impero e periferia di uno stato.
Historiquement, nous étions en marge de l'empire et de l'État. Et donc, nous avons grandi avec cette idée inculquée par nos parents qu'ils avaient eux-mêmes hérité de leurs parents, qu'ici, il n'y avait rien.
Credo che appunto sono passati dall'essere terra di emigrazione.
Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes passés d'une terre d'émigration à une terre de nouveau amoureuse d'elle-même, qui retrouve ses racines et renoue avec ses traditions, sans en avoir honte. La pizzica en est un parfait exemple. Donc nous sommes passés du pays des remords au pays des nouvelles opportunités.
Sono Tiziana Colluto, 39 anni, sono nata e cresciuta nel Salento. Per scelta sono rimasta nel
Je m'appelle Tiziana Colluto, j'ai 39 ans. Je suis née et j'ai grandi dans le Salento. Je suis restée ici par choix. J'étais juriste au départ, puis je suis devenue journaliste. Depuis 20 ans, je couvre les conflits sociaux et environnementaux qui se succèdent dans la région.
E da circa un decennio poi ho fondato un'associazione di volontariato che è Casa delle Agricolture.
Il y a 10 ans environ, j'ai fondé avec des amis l'association La Casa dell'Agricoltura, qui a permis de démontrer qu'un autre modèle de développement est possible sur ce territoire.
Ci siamo chiesti, ma se noi volessimo restare,
on s'est questionné, si nous voulons rester,
Comment pouvons-nous prendre soin les uns des autres et surtout de ce territoire?
Abbiamo semplicemente cambiato lo sguardo sulle cose.
Nous avons simplement changé notre regard sur les
campagnes abbandonnées.
Parce que nos campagnes abandonnées sont devenues une terre d'opportunités. Nos sentiers sont devenus des vergers qui débordent de fruits oubliés. Les personnes âgées du village sont devenues les grands-parents de la communauté. Les migrants d'Afrique et du Moyen-Orient qui arrivent dans les Pouilles ont apporté un souffle nouveau. Et c'est l'utopie concrète que nous vivons.
J'aimerais bien interviewer cette terre meurtrie. Pourrais-tu lui donner ta voix?
D'accordo.
Par quel nom as-tu été appelée à travers les âges?
Io sono Messapia, prima ancora ero la terra delle veneri di Parabita.
Je suis Messapia. Poi sono diventata. Avant, j'étais le pays des Vénus de Parabita. Puis je suis devenue le grand pays d'Otrante, constamment attaqué par les Turcs, un danger qui venait de la mer.
Sono stata Regno delle Due Sicilie, sono stata.
J'ai été le royaume des Deux Siciles, le royaume de Naples. J'ai été le royaume d'Italie, puis la République italienne. Aujourd'hui, je suis communément appelé le Salento.
Quel nouveau horizon vois-tu pour ton futur?
Vedo un futuro forse azzurro.
Je vois un avenir. Peut-être bleu.
Molti giovani che sono in grado di avere cura di me.
Je vois beaucoup de jeunes qui sont capables de prendre soin de moi, qui me connaissent et ne veulent plus m'abandonner. C'est arrivé plusieurs fois et cela arrivera encore. Mais ces dernières années, quelque chose a changé. Un amour partagé est né. Et je me sens non seulement comme la mère de ces nombreux enfants, mais aussi leur future épouse.
La loro futura sposa.
Chaque été, à la fin août, depuis 12 ans, on peut assister à l'union de cette terre et de son peuple à l'occasion de la Notte Verde, un festival porté par toute la communauté d'activistes du Salento comme une fête de famille ou un mariage dans cette alliance retrouvée entre la nature et ceux qui la peuplent et ne veulent plus la surexploiter. En 2023, 20 000 personnes se sont rassemblées à ce festival à Castiglione pour 3 jours de concerts, d'ateliers, de conférences et de débats sur les défis environnementaux, culturels, sociaux auxquels est confronté le Salento comme le reste du monde. Cette année, les voisins burkinabés ou palestiniens sont d'ailleurs venus partager leurs idées et bonnes pratiques, comme placées au centre de cette ronde, une ronde d'espoir sur un air de tarentelle. Salento, le Finistère des possibles, c'était un voyage sonore de Viola Berlanda. Merci à elle et à tous les Salentini qui ont bien voulu porter la voix de leur terre. Laura Larry, Céline Develay-Mazurel, Viola Berlanda, on vous salue, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux voyages, si loin, si proches.